C'est toujours un vrai plaisir d'être ensemble. Merci Pierre. Il se trouve que je vais continuer un petit peu dans le même chapitre. Le Seigneur fait bien les choses. J'ai commencé une série sur la prière du Notre Père et aujourd'hui je fais une pause. Pourquoi ? Plusieurs de nos frères et sœurs ont été éprouvés ces derniers temps. Et peut-être se sont-ils confrontés au verset 28 du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Parmi les épîtres de l'apôtre que l'apôtre a écrites, celle envoyée aux Romains est certainement l'une des plus riches, sinon la plus riche. Paul fait un exposé complet des vérités fondamentales de l'Évangile. Il expose ce que la foi chrétienne, les raisons de la venue et de la mort de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas romains, mais elles nous concernent de la même manière. Si l'on peut qualifier l'épître aux Romains de cathédrale de la vérité chrétienne, le chapitre 8 représente la flèche, selon le commentaire de Scofield. D'autres commentateurs l'appellent l'Everest de la Bible. N'oublions pas que c'est en étudiant et en commentant les épîtres de Paul que Luther va devenir le réformateur qu'on connaît. Dans ce chapitre 8, Paul nous dit la puissance de la rédemption et la perspective de la gloire à venir. Il commence au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Il nous dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Et c'est cet Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et Paul continue au verset 18 où il déclare « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et nous arrivons à cette promesse au verset 28 qui fera aujourd'hui l'objet de notre méditation. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset que l'on cite facilement quand tout va bien. Mais nous avons des difficultés à le comprendre et à l'accepter quand les choses vont mal. Ce verset est mal compris parce qu'on le sort de son contexte et même on le transforme. Toutes choses concourent au bien. Vraiment, Seigneur ? Nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Elle est fiable et constante. Alors, si je ne comprends pas, je demande au Seigneur de m'éclairer. J'ai souvent entendu ce raccourci. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, transformé en tout est bien pour ceux qui aiment Dieu. Non ! Non, me disais-je, je ne vois pas en quoi le décès de ma petite femme chérie avec qui je vivais en harmonie est bien pour moi. Non, je vis le contraire. Tout, ou toute chose, ne signifie pas que tout est bon en soi. La souffrance, le mal, l'injustice, le péché sont mauvais. Si nous pensons que le bien concerne notre bien-être immédiat, nos succès ou l'absence d'épreuves, nous nous trompons. Si nous le pensons, nous serons déçus, parce que nous espérons que les choses soient comme on l'espère. Mais ce n'est pas toujours le cas. De plus, nous sommes impatients. C'est une erreur d'espérer un résultat conforme à nos attentes. C'est Dieu qui est aux commandes et qui décide. Il nous connaît. Il sait de quoi nous avons besoin. N'est-il pas à la fois notre Père et notre bon berger? Alors, de quel bien parle Paul? Revenons à notre texte. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'abord, nous savons, dans notre monde de mensonges, de manipulations, d'images virtuelles, de fake news, de deepfake, c'est-à-dire des vidéos réalisées par l'intelligence artificielle, de promesses non tenues, nous ne savons plus. Nous sommes dans la confusion. Quel repos, quel bien-être de savoir, de pouvoir s'appuyer sur des certitudes. Paul ne dit pas « nous espérons ». Il dit « nous savons ». C'est une certitude. Il se base sur le caractère immuable de Dieu. C'est une promesse. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est certaine. Alors, nous savons quoi ? Que toutes choses concourent au bien. Toutes choses. Il ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Dieu fait concourir toutes choses, mais toutes choses ne sont pas bonnes. Dans les versets précédents, il parle de souffrance. Au verset 17, il dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à sa gloire. Et au verset 18, il parle des souffrances du moment. J'y reviendrai. Non, il ne dit pas que la maladie, la persécution, la souffrance, le chagrin, la perte de ce qu'on aime et toutes ces choses qui font mal sont bonnes. Ce qui est mauvais est mauvais. La haine n'est pas l'amour. La mort n'est pas la vie, le chagrin n'est pas la joie. Et nous le voyons et l'entendons tous les jours, le monde est rempli de mal. Est-ce que Paul dit que tout va bien, tout est bien? Lui qui fut lapidé et laissé pour mort à Lystre, Actes 14, 19, 20, battu de verges et jeté en prison à Philippe, Actes 16, 22, 23, et vous pensez qu'il a bien vécu aussi toutes les accusations des Juifs et sa comparution devant les tribunaux juifs et romains, et qui vont même l'envoyer à Rome avec en prime une tempête au passage. Vous croyez que Joseph pensait que c'était bien pour lui d'être jeté dans une citerne et vendu aux Égyptiens, puis par la suite accusé injustement et jeté en prison? Vous pensez que Job était très heureux lorsqu'il a tout perdu, ses enfants et ses biens, malades et par-dessus le marché, accusé par ses amis de mauvaises choses qu'il aurait commises? Non, tout ce qu'il a subi sont des choses mauvaises. Que David appréciait de devoir fuir devant Saül qui en voulait à sa vie? Et si le prophète Élie en arrive à demander la mort? Ce n'est certainement pas parce que les choses qui lui sont arrivées étaient bonnes. Dimanche dernier, Pierre nous a parlé d'Étienne et comment il fut battu et lapidé. C'est bien, la lapidation? Non, Ce qui est mal est mal, ce qui est mauvais est mauvais. Alors, que dit le texte ? Concourt au bien. Relisons ce verset, mais dans la traduction du Semeur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. C'est Dieu qui est aux commandes. Darby dit que toutes choses travaillent ensemble. Le texte dit que Dieu utilise toutes les choses, bonnes et mauvaises, positives et négatives, pour en tirer le meilleur pour notre bien. Dieu tire du bien du mal. Paul ne dit pas que Dieu empêche ses enfants de vivre des choses mauvaises, parfois dramatiques. Il dit que, quelle que soit notre situation, notre souffrance, mais aussi nos échecs, notre manque de foi, et toutes ces choses comme dans d'autres, notre Père Céleste les travaillera ensemble pour notre bien. Notons que pendant toutes ces épreuves, Paul a pu témoigner et glorifier le Seigneur. Après ces lamentations, Job écoute l'Éternel et le découvre, non pas pour et par ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, 5. Joseph dira à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Dimanche dernier, Pierre nous a raconté comment, à la suite de la lapidation d'Étienne, une grande persécution de l'Église de Jérusalem a entraîné la dispersion, tous excepté les apôtres. Et au verset 4 d'Acte 8, il nous est dit qu'ils allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que le bassin méditerranéen a reçu l'Évangile. Dieu tire du bien du mal. Quand on connaît la fin de l'histoire, on se réjouit. Mais nous, nous sommes là. Et on se pose des questions. Et on ne comprend pas toujours comment les choses s'organisent, elles s'emboîtent. Et nos interrogations peuvent même nous empêcher de dormir la nuit. N'oublions pas, comme dit Paul aux Corinthiens, Corinthiens 13, 12, qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Comment tout ce qui m'arrive s'inscrit-il dans le plan de Dieu pour moi ? Nous savons que Dieu permet les épreuves pour nous faire grandir aussi, pour nous faire progresser, pour faire progresser notre maturité spirituelle. Et quand elles sont là, nous devons lui faire confiance et recevoir sa paix, comme il nous l'a promis, en lui faisant connaître nos besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Vous avez reconnu Philippiens 4, 6. Paul nous dit que Dieu travaille pour nous, pour notre bien. Comment le fait-il ? Il fait concourir ou fait agir toutes choses ensemble, tiré du mot grec synergéo, pour exprimer l'idée de coopérer ou agir ensemble. La synergie est l'action coordonnée de plusieurs organes, l'association de plusieurs facteurs qui concourent à une action, à un effet unique. Si vous utilisez par exemple les huiles essentielles, vous savez qu'elles sont bien plus efficaces quand on les associe en synergie. Et quand on cuisine, c'est pareil. Chaque élément utilisé séparément n'est pas forcément bon. Essayez de manger séparément la farine, la levure, les œufs crus, le sel, etc. Je ne suis pas sûr que vous aimiez beaucoup. Mais utilisés ensemble par une cuisinière qui sait les faire travailler ensemble, ils vont produire un super gâteau qui va régaler ses amis. Paul nous dit dans Romains 8, 28 que Dieu prend toutes les choses de notre vie pour les associer en synergie, pour en obtenir le meilleur pour notre bien, en sachant que ce bien que Dieu nous destine peut être différent de celui auquel on aspire. Notre bien n'est pas forcément notre confort, nous l'avons dit. Notre bien, c'est de marcher selon sa volonté. Tenez, Paul a demandé à plusieurs reprises qu'il soit délivré de son écharpe dans la chair. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Le bien pour Paul n'était pas la fin de la douleur, mais une dépendance encore plus grande envers Dieu. Tout ce qui est négatif dans cette vie est considéré comme ayant un but positif dans l'exécution du plan éternel de Dieu. Notre bien, c'est notre transformation à la ressemblance du Christ Jésus. Le verset suivant, c'est-à-dire le verset 29, nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est à cette image qu'Étienne, par exemple, s'est conformé, notamment quand il demande à Dieu de ne pas imputer leurs péchés à ses bourreaux. Pour ceux qui aiment Dieu, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul y ajoute une condition. Cette promesse, cette certitude ne s'applique pas à tout le monde. Elle concerne ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous Dieu ? Aimez-vous Dieu ? Je ne vous demande pas si vous connaissez des choses sur Dieu. Nous aimons Dieu si nous gardons ses commandements. Jean 14, verset 15, Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et un peu plus loin, au verset 23, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Nous l'aimons si nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et en ne nous conformant pas au monde actuel, mais en étant transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 et 2. Aimer Dieu, c'est l'aimer pour ce qu'il est, avant de l'aimer pour ce qu'il fait et ce qu'il nous donne ou pas. Quand on aime quelqu'un, on est attentif à ses besoins et à ce qu'il aime, et on précède sa demande pour lui être agréable. Si nous aimons Dieu, nous devons avoir cette même attitude. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quel est son dessein ? Lisons les versets suivants. Verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Dans la version de Parole vivante, il est dit en effet ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants, au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté, de la sainteté de Dieu, leur a accordé leur part de gloire céleste. Au final donc, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu dans la perspective de la gloire qui nous est réservée. C'est ce que dit Paul d'ailleurs au verset 18. J'estime, dit-il, que les souffrances du moment présent, qui font partie donc de toutes ces choses, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Hébreux 11 nous présente le portrait des héros de la foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham et Sarah. Et au verset 13, il est dit « C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin et ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et que dire des martyrs ? Jean-Baptiste décapité, Étienne lapidé. Selon la tradition, l'apôtre Paul aurait été arrêté à Rome et décapité. L'apôtre Pierre aurait été crucifié la tête en bas à sa propre demande, car il ne se jugeait pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Acte 12, 1 et 2 nous apprend que le roi Agrippa Ier fit mourir par l'épée l'apôtre Jacques, fils de Zébédée. Et l'expression « par l'épée » étant généralement comprise comme une décapitation. Jacques, le frère de Jésus, fut, selon l'historien juif Flavius Joseph, condamné à mort et lapidé. Eux aussi, et bien d'autres, n'ont pas reçu les biens promis sur la terre, mais ils voyaient plus loin. C'est ce que dit le verset 39 d'Hébreux 11. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Les héros de la foi d'Hébreux 11 ont maintenant leur part de gloire pour l'éternité. Peut-être ne verrons-nous pas se réaliser le bien que Dieu a fait concourir pour nous maintenant sur cette terre. Mais nous savons que Dieu nous a appelés, il nous a déclarés justes et nous a accordé sa gloire. Quelle est belle cette promesse, qui est certaine. Nous sommes dans la main de Dieu qui a élaboré ce plan d'amour pour nous. Romains 8, commencez par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et il se termine ainsi. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 28 nous dit que nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Nous savons que Dieu nous aime, qu'il fait travailler ensemble toutes choses, les bonnes et les mauvaises, pour notre bien ici sur terre, où nous sommes que de passage, et surtout dans la perspective de la gloire qui nous est réservée. Il se peut que nous soyons troublés à cause de choses mauvaises qui nous arrivent. Et c'est inconfortable. Inconfortable, pour le moins. Alors, levons la tête et voyons plus loin, sachant que Dieu a préparé le chemin et qu'il a un plan d'amour pour nous. Et son plan divin, c'est la gloire qui nous est réservée. En théorie, il est facile de comprendre cela, de comprendre cette promesse. Mais la vivre est une autre affaire. Si je crois Dieu, alors je décide de lui faire confiance, parce qu'il en est digne. Je choisis de ne pas vivre dans la peur de ce qui pourrait m'arriver de mal, mais dans la foi en cette promesse. Avec David, nous pouvons mettre notre confiance dans ce Dieu qui est notre Père éternel. Psaume 27, verset 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» Et au verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Nous prions. Seigneur notre Père, nous te sommes profondément reconnaissants pour cette promesse. Je te demande pardon pour les fois où nous nous sommes reposés sur notre propre compréhension au lieu de t'avoir fait confiance. Je te prie pour ceux qui luttent avec des prières restées sans réponse. Rappelle-leur que ton silence n'est pas de l'indifférence, mais que tu agis en ton temps. Donne-leur la patience, sachant que tu fais toutes choses belles en ton temps. Fortifie leur foi et accorde-leur ta paix. Je te prie pour mes frères et sœurs qui traversent des épreuves, afin que cette promesse soit aussi réelle pour eux que lorsque tout va bien. Nous savons que tu nous aimes et que tu fais concourir toutes choses pour notre bien et pour ta gloire à court et à long terme. Nous te faisons confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Aide-nous à réaliser que tu fais concourir toutes choses à notre bien selon ton dessein. Amen.